débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Une conférence internationale sur le Proche-Orient se déroule dimanche à Paris pour tenter de redessiner une issue au conflit israélo-palestinien. 75 délégations sont invitées, mais ni les représentants d'Israël ni ceux des Palestiniens ne seront présents. Au centre des discussions, la perspective de deux États, israéliens et palestiniens, dont Israël ne veut pas. Les motifs de discorde semblent insurmontables. La colonisation en territoire palestinien, les attentats en Israël renforcent les antagonismes et éloigne les espoirs de solutions pacifiques. Cette conférence est qualifiée d'absurde par le Premier ministre israélien, d'opportunité côté palestinien. Alors la conférence de Paris peut-elle aider à une solution au conflit israélo-palestinien ? On en parle avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je vais commencer avec Belig Nabli, qui est directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut national, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur d'un bouquin récent qui s'appelle Géopolitique de la Méditerranée, c'est paru chez Armand Collin. Bonsoir à vous, Belig Nabli.
Bonsoir.
Et puis, Ofer Bornstein est lui politologue, président du Forum international pour la paix. Bonsoir, Ofer Bornstein.
Bonsoir, bonne année.
Merci, à vous aussi.
Merci.
On peut peut-être commencer avec cette question, de savoir pourquoi les Palestiniens, ni les Israéliens, sont présents à cette conférence. Belig Nabli.
C'est le produit à la fois de la volonté des organisateurs qui sont partis du constat suivant lequel finalement les négociations bilatérales entre Palestiniens et Israéliens n'étaient pas possibles politiquement parce que finalement ni les uns ni les autres ne veulent négocier en tête à tête depuis un certain nombre d'années. Pour des raisons différentes, du côté palestinien, parce que on considère que tant qu'Israël continuera à coloniser la Cisjordanie, eh bien l'idée ou le principe des négociations de paix est impossible. Et du côté israélien, on est prêt à négocier, mais sans revenir sur la stratégie de colonisation. L'acceptation du principe seul de la négociation bilatérale écarte du point de vue israélien toute perspective d'une conférence internationale, quelle qu'elle soit, pour aboutir à une solution de paix.
Mmh. C'est une explication à laquelle vous souscrivez, Ofer Bornstein ?
Écoutez, à la base, l'initiative française d'il y a presque un an, puisque c'est Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui l'avait initiée. Elle a été reprise par le président Hollande et par son successeur, Monsieur Ayrault. À la base, la mécanique devait être qu'on se rencontre en juin, il y a eu déjà la première rencontre en juin, et sans les Israéliens et sans les Palestiniens, pour se mettre d'accord sur un framework, sur un cadre, et ensuite on se rencontre en janvier avec les Israéliens et les Palestiniens. De par le refus israélien de participer à cette conférence, les Palestiniens n'ont pas leur place autour de la table non plus, puisque ça serait aberrant de faire une conférence de paix entre Israéliens et Palestiniens sans que les deux protagonistes soient absents. Maintenant, vous allez me dire pourquoi les Israéliens refusent de venir, parce que si les Israéliens seraient venus, le président Abbas serait lui aussi venu. Bien que le président Abbas sera à Paris ce week-end, il participera pas à la conférence, mais il rencontrera le président Hollande lundi.
Alors pourquoi les Israéliens ne veulent pas ?
Le refus israélien est absolument aberrant. Il est très paradoxal, parce que d'un côté, le Premier ministre Netanyahou prétend qu'il est pour la solution des deux États. D'un autre côté, sa coalition, qui est composée aussi d'éléments d'extrême droite, refuse l'idée de la création d'un État palestinien, refuse l'idée que lui-même aimait de la solution des deux États. Donc il est complètement pris en otage par une partie de sa coalition qui est d'extrême droite. Il a peur aussi qu'il y ait des pressions internationales sur lui pour justement arrêter la colonisation et revenir à la table des négociations. Mais ce qui est regrettable et encore une fois contradictoire à ce qu'il déclare depuis très longtemps, c'est que lui prétend qu'il veut rencontrer Mahmoud Abbas, son le président palestinien, sans aucun condition préalable. Mmh. Il a une occasion en or, ici à Paris, de venir rencontrer son homologue palestinien, qui est le meilleur partenaire pour la paix qu'Israël puisse espérer, et il rate cette occasion.
Belig Nabli, alors rapidement, qui est là et pourquoi à cette conférence ?
Alors ce qui est intéressant à travers cette conférence, c'est qu'il y a une volonté d'expression d'une communauté internationale qui serait incarnée à la fois par des États, à la fois occidentaux et arabes, essentiellement, mais aussi des organisations internationales, ce qu'on appelle chez les juristes des sujets du droit international. Oui.
Qui, par exemple ?
Ben, les sujets, ce sont les États et les organisations internationales. Et les uns et les autres sont importants dans cette affaire parce qu'il y a le jeu notamment de la reconnaissance de l'État palestinien qui se joue à l'ONU, mais aussi dans chacune des organisations internationales. On a tous à l'esprit l'épisode de l'UNESCO, puis à l'ONU où s'est posée précisément la question du statut des Palestiniens en tant qu'État. Question qui demeure d'actualité, qui est au cœur de la conférence et qui notamment se pose en des termes particuliers pour la France également, parce que vous avez évoqué l'engagement de Laurent Fabius lorsqu'il est entré au Quai d'Orsay au début du mandat de François Hollande, et puis ce même Laurent Fabius s'était engagé au nom de la France d'agir. Alors cette conférence traduit cet engagement, mais cet engagement s'était aussi exprimé à l'époque par le fait de déclarer que si la France n'arrivait pas à faire évoluer, progresser ce dossier du fait du comportement et de la position intransigeante des Israéliens, eh bien la France était tout à fait disposée d'agir par une reconnaissance d'un État palestinien, ce qui relève pour le coup de ce qu'on appelle un acte unilatéral, c'est un acte de souveraineté. La France est libre de le faire, elle ne dépend pas d'un quelconque autre acteur international. Ça serait une manière pour la France de faire de clore finalement aussi pour François Hollande un quinquennat relativement amorphe et qui se terminerait par un acte qui s'inscrirait dans la ligne gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire une ligne d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances internationales, un acte d'indépendance et de panache. Et c'est une question qui va peut-être prendre de la consistance, de l'importance avec la fin annoncée de ce quinquennat. Et François Hollande donc devra répondre à cette question que posent de plus en plus d'acteurs internationaux et nationaux, à savoir est-ce que la France est capable de reconnaître l'État palestinien.
Un acte peut-être un petit peu, comment dire, symbolique. Vous sembliez dire que tout à l'heure qu'une très forte intransigeance de la part du gouvernement israélien, donc l'ouverture ou la volonté de créer ces deux États ne pourrait que être symbolique pour les Israéliens.
Permettez-moi d'exprimer à la fois ma tristesse et ma révolte. Je suis outré par la position de la France, par la position de la communauté internationale. J'ai été présent en 1982, lors de la visite officielle de François Mitterrand en Israël, où il a exprimé l'amitié qu'Israël a envers l'amitié que la France a envers Israël, le soutien de la France à Israël et sa volonté de voir naître un État palestinien. J'étais présent à Jérusalem lorsque Chirac, après Mitterrand, est venu pour exprimer presque la même chose. J'étais présent quand Nicolas Sarkozy est venu à la Knesset, au Parlement israélien, pour exprimer la même chose. J'étais présent il y a 3 ans et demi quand François Hollande est venu dire aux Israéliens la même chose. La communauté internationale, vous savez, il y a 36 ans, à Venise, la communauté internationale et l'Union européenne s'étaient déjà exprimées. On dit déjà qu'ils étaient pour la création d'un État palestinien et une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. C'était il y a 36 ans. La communauté internationale est en train de se foutre de notre gueule, excusez-moi l'expression, parce que je suis révolté. Ils ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Il est temps, une fois pour toutes, de résoudre ce problème qui, en réalité, il s'agit de 15 millions de personnes. C'est un petit problème, mais qui a des effets néfastes dans nos rues. On a vu comment les terroristes qui ont agi à Bruxelles ou à Paris, certains d'entre eux ont agi au nom de la cause palestinienne. Donc ce conflit s'est invité sur les places françaises, à Londres, à Bruxelles, à Berlin. Il s'invite un peu partout. Il est temps que la communauté internationale se donne les moyens de faire pression sur les uns et sur les autres pour régler une fois pour toutes ce conflit. Alors, maintenant, comment, permettez-moi encore une phrase. ce qui est extraordinaire et qui peut être efficace dimanche à Paris, c'est qu'on doit parler de la double reconnaissance. D'un côté, la communauté internationale doit reconnaître une fois pour toutes l'État palestinien dans toutes les instances internationales, y compris à l'ONU comme étant membre. D'un autre côté, exiger des pays arabes et musulmans qui seront présents à Paris dimanche de reconnaître l'État d'Israël.
Alors, je m'adresse aux géopolitologues. Qu'est-ce qu'ils pensent à la fois de ce jugement sévère et de cette colère ?
Oui, on ne peut que constater finalement le fait que la communauté internationale se plaît dans des grands discours vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, mais sans grande décision qui puisse tirer les conséquences de la stratégie israélienne de colonisation, à la fois illégale sur le plan du droit international, immorale du point de vue politique et surtout qui transforme ce conflit en conflit éternel. Parce que tant que cette stratégie de colonisation continuera, c'est l'hypothèse même de l'État palestinien qui se trouve neutralisé. Donc là, on voit bien que toutes ces problématiques sont imbriquées. Et ce qui est intéressant malgré tout, d'un point de vue géopolitique précisément, c'est que avec la montée en puissance du phénomène Daesh, on avait l'impression que le conflit israélo-palestinien était neutralisé, était passé au second plan, ce qui s'inscrivait dans une stratégie israélienne, finalement, de banaliser un conflit de basse intensité et le réduire à un rapport de force que les Israéliens maîtrisaient face à l'autorité palestinienne, pour le moins dépourvue de moyens de coercition ou d'action politique vis-à-vis d'Israël. Et face à cette impression-là, donc, on assiste au contraire à un retour de ce dossier, un retour assez spectaculaire avec successivement, et la fin du mandat de Barack Obama n'est pas étranger à ce phénomène-là, succession d'une résolution forte du Conseil de sécurité qui vient d'adopter une résolution 2334, qui rappelle d'une part l'illégalité de la stratégie de colonisation et deuxièmement en appelle à l'arrêt de cette stratégie, une forme de condamnation donc vis-à-vis de l'État israélien, avec en plus l'abstention des États-Unis, pourtant présenté et assumé comme un soutien inconditionnel de l'État hébreu. Deuxième acte, une déclaration forte, un discours très fort officiel de John Kerry qui s'inscrit donc dans la dynamique ouverte par la résolution onusienne et qui a pratiquement dit que l'État israélien s'inscrivait dans une logique d'État d'apartheid. Il l'a dit en off déjà il y a quelques années. Et là, il l'a dit de manière quasi officielle également. Et puis, troisième acte, le tout en un peu moins d'un mois, troisième acte diplomatique, cette conférence internationale qui met les Israéliens face à une réalité qu'ils étaient tentés d'ignorer.
Bon, moi je voudrais rebondir sur la résolution 2334 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité il y a deux semaines. C'est une résolution stérile. Elle est déclarative, elle explique ce que tout le monde dit déjà depuis 25 ans, depuis les accords d'Oslo, que les colonies sont un obstacle à la paix, qu'il faut créer, que la solution c'est la création de deux États qui vivraient en bon voisinage l'un à côté de l'autre, mais elle ne se donne pas les moyens de l'imposer sur les parties, puisqu'elle l'a fait sous le paragraphe 6.
Mais est-ce que ces moyens existent ?
Mais bien sûr que ces moyens existeraient. Écoutez, encore une fois, je suis outré par la cacophonie diplomatique, et parlons de la France, parlons de l'Europe. Vous savez, il y a, pas seulement l'Europe, a 29 représentations diplomatiques à Tel Aviv et à Jérusalem. Des centaines de fonctionnaires européens, des États membres et de la Commission européenne et agissent en Israël et en Palestine depuis déjà les accords d'Oslo, depuis déjà presque 25 ans. Des centaines d'agences de coopération internationale, l'Europe et les pays membres de l'Europe ont dépensé presque 25 milliards d'euros à aider les Palestiniens à créer leur État. À ce stade, zéro résultat. Zéro résultat. À un moment donné, il faut dire basta. Non. Peut-être que la solution, c'est d'arrêter. Israël veut continuer l'occupation. Il faut qu'elle s'en donne les moyens. Ça doit pas être sur le compte du contribuable européen. L'intérêt d'Israël, la sécurité d'Israël sera garantie uniquement par des relations de paix et de bon voisinage avec ses voisins. La conférence de dimanche peut permettre aux pays arabes et aux musulmans de déclarer qu'ils sont d'accord pour reconnaître l'État d'Israël en échange d'une reconnaissance de l'État palestinien.
C'est plausible comme perspective, ça.
Cette hypothèse, elle est déjà formalisée par l'initiative de paix arabe qui a déjà pas mal d'années et qui a été rejetée. Qui a été rejetée par les Israéliens. Donc cette solution équitable, ce compromis existe, il a été formalisé politiquement par les États arabes et l'État israélien a considéré que la contrepartie, à savoir finalement la création d'un État palestinien, n'en valait pas la peine. Donc on voit bien que d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose à négocier aujourd'hui avec les Israéliens, mais ce qui peut paraître comme irrationnel dans la mesure où si on écoute mon collègue qui a raison. Israël a intérêt, finalement, rationnellement, à faire la paix, a intérêt sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Mais, précisément, la position actuelle, l'impasse actuelle relève d'une forme d'irrationalité qui s'explique par la montée en puissance, d'une forme de nationalisme religieux qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui s'est diffusé, qui tend à s'imposer dans la société israélienne, qui se radicalise et considère et réduit le Palestinien, finalement, dans une figure d'ennemi fantasmagorique.
Alors, voilà un premier point de réflexion sur une question que je me pose et que je vous pose, Ofer Bronstein. Il semble que le camp de la paix, finalement, en Israël, se réduise au fil des années, que l'opinion publique n'y croit plus vraiment. On se demande pourquoi. On a l'impression que, depuis les attentats particulièrement, que dans ce climat de guerre, militer pour la paix, c'est un signe de faiblesse, voire de traîtrise.
Tout d'abord, comme vous le savez, le gouvernement actuel est un gouvernement de droite et d'extrême droite. Une bonne partie de ce gouvernement est composée d'acteurs politiques populistes, démagogues, fascisants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je crois que le public israélien a été matraqué depuis quelques années. On ne lui vend que de la peur. D'un côté, avant, c'était l'ennemi qui était le Hamas. Mmh. Ensuite, l'ennemi, c'est le Hezbollah. Ensuite, pendant des années, l'ennemi et la menace, c'était l'Iran. Donc, on est en train de lui vendre que des menaces. Mmh. Aujourd'hui, Israël n'est pas un pays menacé. La Syrie ne peut pas menacer Israël, elle n'existe pas. L'Irak est ce qu'elle est, elle n'existe pas. Il y a des accords de paix avec la Jordanie, donc la Jordanie n'est pas une menace. Il y a des accords de paix très riches avec l'Égypte, donc l'Égypte n'est pas une menace. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui l'État d'Israël? Et vous avez raison de le toucher. Je crois que ce qui menace aujourd'hui l'État d'Israël et son existence même, c'est les éléments extrémistes de la société israélienne. Ceux qui veulent continuer la colonisation, en fait, remettent en question l'existence même de l'État d'Israël en tant qu'un État juif et démocratique. Puisque s'ils vont vers une situation d'apartheid, d'annexion des territoires palestiniens, ne leur permettons pas d'avoir leur propre État, Israël va vers la solution de l'apartheid. C'est contraire à l'éthique juive, c'est contraire à la morale juive, et c'est contraire aux intérêts de l'État d'Israël. Ça met en danger l'existence même de l'État d'Israël.
Alors la solution, elle vient quoi? Manifestement pas de l'intérieur en ce moment, en tout cas, de la pression internationale?
Encore faut-il que cette pression se matérialise, parce que effectivement, bon, moi, je ne dis pas que la résolution onusienne n'a pas d'intérêt. Elle a un intérêt parce qu'elle a créé un électrochoc, y compris du côté israélien, qui a tenté dans un premier temps de la relativiser, mais vu la surréaction israélienne, y compris sur le plan diplomatique, on a bien compris qu'il y a eu une onde de choc derrière cette résolution onusienne, et donc c'était pas simplement un acte Excuse-moi. Symbolique.
C'est pas la résolution qui a été un onde de choc, c'est le fait que les Américains n'ont pas émis un veto.
Oui, bien sûr, mais si la résolution a été adoptée, c'est bien parce qu'il y a eu une abstention américaine. Donc, cette résolution est historiquement importante. Mais il va falloir effectivement passer une forme de dimension plus coercitive. Naturellement, il ne s'agit pas d'une intervention militaire, mais il y a d'autres moyens de mettre la pression, de sanctionner, je pense notamment à des sanctions économiques et commerciales.
On verra.
Et l'Europe a les moyens, effectivement, d'agir en la matière.
D'accord, on verra dimanche ce qui ressort de cette conférence. On n'en dira en tout cas pas plus ce soir. Merci à tous les deux. Belling Nabli, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique de la Méditerranée, c'est chez Armand Collin, et Ofer Bronstein, politologue et président du Forum international de la paix. Merci également à Eleanor Krenik qui a
préparé
cette émission.
Merci à vous et bonne chance pour la conférence de Paris de dimanche.
Qui la réalise. Merci. Vous pouvez réécouter ce débat sur notre site internet. Bonsoir à tous.